Bonjour et bienvenue. 2017 aura-t-elle été une bonne année pour les sciences? Pour cette dernière tête au carré de l'année, nous vous proposons de faire le bilan. Et vous, que retiendrez-vous sur le plan scientifique de ces 365 jours? La visite surprise d'un astéroïde interstellaire en forme de cigare, l'urgence climatique toujours plus pressante ou les avancées de l'internet quantique? Voici quelques-uns des thèmes que nous aborderons dans cette rétrospective en compagnie de trois journalistes scientifiques hors pair que je vous présente dans un instant. Mais avant cela, un coup d'œil à la une de la science. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui à la une, l'incendie Thomas qui dévaste la Californie du Sud depuis près d'un mois.
Oui, il a été reconnu comme le plus grand qu'ait jamais connu la Californie. Moins meurtrier que celui d'octobre qui a tué 44 personnes, Thomas a déjà embrasé plus de 1100 km², c'est 10 fois la surface de Paris. Pourquoi est-il si difficile d'en venir à bout? On en parle avec le géographe Frédéric Leriche.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le programme de cette tête au carré. Réalisé par Céline Hillard et préparé par Sophie Vaud, Thomas Lehété et Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Autour de la table, trois journalistes scientifiques de premier choix, Sophie Becherel de France Inter, Philippe Pajot du magazine La Recherche et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors nous allons découvrir dans ce dernier club des têtes au carré de 2017 les découvertes et les événements de l'année que vous avez choisi de retenir. Mais avant tout, une impression générale, 2017 est-elle un bon cru sur le plan scientifique? Philippe Hénarejos, du côté de l'astronomie, il y a eu du lourd.
Mais oui, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'irruption de cet astéroïde bizarre venu d'ailleurs. Évidemment, on ne s'y attendait pas, donc c'est la découverte fortuite et ça a été quelque chose. Et puis, les ondes gravitationnelles aussi, comme le disait notre ami tout à l'heure.
Alexis Meyer.
Pas parce que c'est nouveau, ça fait quand même 2 ans, mais parce qu'elles apportent du nouveau aujourd'hui.
Une nouvelle astronomie est en train de voir le jour, l'astronomie multimessager, on va avoir l'occasion d'en parler. Philippe Pajot du magazine La Recherche de janvier fait sa couverture sur les 10 découvertes majeures de l'année. Ça a été difficile de choisir ?
Très difficile parce qu'on avait évidemment énormément de choses. Alors les ondes gravitationnelles, j'ai envie de dire, évidemment aussi. Hein. Un ami astrophysicien me disait, si un jour on rencontre des extraterrestres et qu'ils me disent que je sais détecter des ondes gravitationnelles, ben, ce sera vraiment chapeau. Quoi.
Ouais.
Bravo, c'est vraiment un accomplissement extraordinaire et puis une ouverture, une nouvelle astronomie. Alors il y a énormément de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Les progrès en intelligence artificielle aussi, il y a eu pas mal de choses cette année. C'est quelque chose qui ne frémit plus, mais quand même arrive maintenant.
Mais vous nous parlerez plus exactement de l'internet quantique, et puis aussi vous vous interrogerez sur les origines de l'homme, le scénario qui est revisité. On verra ça avec vous. Sophie Becherel, 2017 a amené son lot de découvertes, mais aussi a fait émerger ou en tout cas renforcer certaines inquiétudes.
Oui, effectivement, plus la connaissance augmente, plus elle interroge la société et la société que nous voulons. Et effectivement, entre l'intelligence artificielle, entre l'arrivée des robots par exemple, entre toutes ces nouvelles découvertes, à chaque fois on se demande de plus en plus qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça change pour l'organisation de la société et pour, j'ai envie de dire, l'humanité, l'égalité, les valeurs fondamentales.
On va parler de tout ça dans cette émission, ça fait un sommaire chargé. Et puis vous nous direz aussi ce que vous attendez avec impatience pour 2018. La tête au carré, j'ai un dernier coup d'œil dans le rétro avant de tailler la route vers 2018. Et les auditeurs peuvent réagir et participer à cette ultime session de rattrapage via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. À la une de la science, l'incendie Thomas qui dévaste le sud-ouest de la Californie depuis le 4 décembre.
Rien ou presque ne semble arrêter les flammes qui ne cessent de gagner du terrain en Californie. Des vents ont soufflé jusqu'à plus de 130 km/h ces 2 derniers jours. Des rafales équivalentes sont attendues ce vendredi. De quoi compliquer le travail des pompiers qui ne sont parvenus à circonscrire que 5% de l'incendie le plus violent dans le comté de Ventura, qui a fait un mort. Ces foyers menacent aussi le centre de Los Angeles et plusieurs centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées.
Cette description de la situation date du 8 décembre dans le journal d'Euronews. Une vingtaine de jours plus tard, l'incendie n'est pas éteint. 2 morts, plus d'un millier de maisons et de commerces détruits, plus de 100 000 habitants évacués, et notamment dans le comté de Santa Barbara, au nord de Los Angeles. Les pompiers comptent venir à bout de l'incendie, Thomas, la semaine prochaine. En attendant, il s'est propagé aux portes d'une des plus grandes villes du monde. On en discute, Agnès, avec notre invité en direct depuis les studios de France Bleu Toulouse.
Frédéric Leriche, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'université Versailles-Saint-Quentin et spécialiste des États-Unis. Alors pourquoi cet incendie, Thomas, est-il le plus important de l'histoire en Californie? C'est en tout cas comme ça qu'on le présente, hein.
Oui, effectivement, 2017, c'est une année très particulière, une année horrible pour la Californie. Cet incendie, Thomas, en fait, c'est l'aboutissement d'un processus de plusieurs incendies qui se sont déclarés un peu partout en Californie depuis le mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'était surtout le nord, en fait, le centre de la Californie qui était touché autour de San Francisco, et au nord en particulier de San Francisco, sur les comtés de Napa, Sonoma ou Mendocino surtout, qui avaient été touchés, avec des dégâts colossaux, dégâts matériels, dégâts humains également. Vous le soulignez tout à l'heure, quelque chose comme 44 décès, mais aussi des dégâts matériels et des dégâts, je dirais, économiques importants. Là, ce qu'on appelle la Wine Country, cette région du vin, a été extrêmement endommagée. On estime à quelque chose comme 9 milliards de dollars les dégâts. Et puis, du coup, cet incendie, Thomas, qui est en passe d'être maîtrisé, effectivement, plutôt cette fois-ci dans le sud de la Californie, plus désertique, plus aride plutôt que le nord de la Californie. C'est surtout les comtés du nord de Los Angeles qui ont été touchés, Santa Barbara, Ventura County aussi, mais pas seulement, aussi San Diego, hein, plus au sud de la Californie, au sud de Los Angeles, a également été touché. Vous le disiez, un nombre de déplacés, un nombre de destructions de bâtiments qui a été colossal.
C'est pour ça que c'est le pire de l'histoire de la Californie, c'est parce qu'il s'est beaucoup étendu, justement.
Oui. Si on regarde historiquement les incendies qui ont eu lieu précédemment, il y en a très régulièrement. Il ne faut pas imaginer que, en focalisant sur l'actualité, on serait sur quelque chose d'absolument exceptionnel et d'inédit. Absolument pas. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est dramatique en l'occurrence, c'est la durée des incendies, l'ampleur des incendies, l'ampleur des dégâts, le nombre de décès. En 1933, il y a eu un incendie qui était important, enfin des incendies importants, il y a eu 29 décès. En 91 également, plus près de nous, 25 décès également. Mais malheureusement, 2017 est en train de abattu d'ores et déjà le record, effectivement.
Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est un incendie dans une ville, en l'occurrence une très grande ville. Comment il peut se propager ainsi?
Oui, alors, ce sont pas, il faut pas imaginer que ce sont les espaces centraux véritablement qui sont touchés, les quartiers les plus urbanisés. En fait, le problème majeur, il vient des formes du modèle résidentiel états-unien en général et du modèle résidentiel californien en particulier. Pour bien comprendre ce qui se passe, je crois, il faut peut-être essayer de donner 2-3 éléments de contexte. Les images sont choquantes, elles sont extrêmement violentes, mais je crois que c'est aussi le fruit de l'image de la Californie qui oscille entre l'idée d'un paradis, l'idée d'un enfer. C'est un territoire de prospérité. La Californie, c'est la Silicon Valley, c'est Hollywood, c'est un art de vivre également. Mais c'est aussi une terre de danger. Les Californiens vivent dans l'angoisse du Big One, le tremblement de terre. Et finalement, ce sont les incendies qui sont omniprésents. Et du coup, la Californie est comme victime de son succès. Il y a un marché du travail extrêmement dynamique. Silicon Valley ou Hollywood, ça marche très très bien. Une croissance démographique importante. Deux chiffres qui, je crois, il faut avoir, je crois, ces chiffres à l'esprit, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe exactement. En 1950, il y a 10 millions d'habitants à peu près en Californie. Aujourd'hui, pas tout à fait, mais presque 40 millions d'habitants, c'est-à-dire en 70 ans, la population a été multipliée par 4. C'est quand même difficile à penser, hein, depuis l'Europe et depuis la France en particulier.
Frédéric Leury, justement cette différence entre la France et la Californie, dans l'organisation urbaine, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique de cette organisation urbaine qui fait que ces incendies se propagent et ont l'air si difficiles à éteindre?
C'est la périurbanisation. Fondamentalement, c'est un problème de comme je le disais tout à l'heure, de modèle résidentiel. Los Angeles, c'est 18 millions d'habitants et les banlieues sont extrêmement étendues. La région de San Francisco, c'est 6 millions d'habitants. San Diego, 3 millions d'habitants. On a affaire à des métropoles absolument immenses. L'étalement urbain est extrêmement important et c'est pour partie lié à la croissance démographique que je soulignais il y a quelques secondes. Les gens veulent habiter dans des pavillons. Donc les deux tiers à peu près du modèle résidentiel, ce sont des pavillons, les gens habitent.
C'est l'étalement urbain, ça collectifs. Veut dire que c'est l'étalement urbain, Frédéric Le Riche, qui est aussi à l'origine de cet incendie qu'on ne semble pas parvenir à éteindre.
Oui, à l'origine, non, mais enfin, qui complique sérieusement la manière de gérer le problème. Et quand je parle d'étalement urbain, il ne faut pas imaginer une banlieue comme on peut la connaître chez nous. C'est aussi un étalement urbain qui va, du coup, miter les espaces sauvages. C'est-à-dire qu'on a un étalement urbain qui va s'étendre en direction d'espaces qui sont des espaces sauvages, des espaces naturels. Et ça, de ce point de vue-là, pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, il y a d'une part, une proximité culturelle, une affection des Américains pour la nature sauvage qui est absolument colossale. Il y a un mot qu'on ne peut pas traduire qui est le mot de wilderness, les espaces sauvages, la sauvagerie américaine. Et les Américains sont très friands de ça. Et puis l'autre chose, c'est une espèce de laisser-faire. Je vais utiliser ce terme-là, ça sera relativement élégant. Allez, le laisser-faire des pouvoirs publics qui donnent des autorisations de construction dans des endroits totalement reculés, enclavés et impossibles d'accès.
Agnès, on vous pose une dernière question.
Ouais, on a bien vu les images de ces maisons isolées dans les collines qui étaient encerclées par les flammes. Donc on voit bien qu'il y a cette extension des villes dans des zones naturelles très lointaines. Mais donc c'est quoi ? C'est la proximité avec la nature qui fait que ça s'embrase plus facilement ou bien il y a aussi un contexte climatique qui favorise ces incendies ?
Oui et oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on parlait de périurbanisation, il y a à peu près 11 millions de Californiens qui habitent de fait dans des zones à risque parce qu'ils sont loin des espaces centraux, justement dans ces espaces trop proches sans doute de la nature. Et puis aussi ce sont des espaces naturels dans lesquels il peut y avoir un peu de négligence, par exemple, des tessons de bouteilles qui du coup vont traîner dans ce type d'espace. Et il y a un lien effectivement avec la question du changement climatique. On a traversé une période de sécheresse pendant quelques années en Californie. Et étonnamment, l'hiver dernier, il y a eu des précipitations importantes, ce qui a redonné un coup de fouet, je dirais, à la végétation au printemps. Une repousse végétale importante et ça, à la suite d'un été. L'été 2017 a été le plus chaud jamais enregistré en Californie. Et du coup, à l'automne, il y a eu une espèce de carburant très particulier, des feuilles, des brindilles qui se retrouvaient au sol et qui ont alimenté, embrasé plus encore les incendies. Et puis dans un contexte climatique, j'ai envie de dire normal, mais aggravé par le changement climatique, qui est celui de vent d'automne, El Diablo, plutôt dans le nord, ou Santa Ana Wind, plutôt dans le sud de la Californie, des vents qui vont à 150 km/h, et qui vont transporter le brasier un petit peu partout.
Merci Frédéric Le Riche, merci beaucoup. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler dans la suite de cette émission du changement climatique avec Sophie Becherel. Merci à vous. Je signale que vous avez publié Les États-Unis, géographie d'une grande puissance aux éditions Armand Collin. Et merci également à France Bleu Toulouse pour avoir assuré la liaison avec vous. Et puis Agnès, on vous retrouve lundi avec Mathieu Vidard.
Tout à fait.
À bientôt. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à Sumatra vient de se produire la plus grande éruption volcanique de l'année pour cette île indonésienne. Le volcan Sinabung a craché des flammes et surtout des colonnes de cendres brûlantes qui ont atteint plus de 4 km d'altitude cette semaine et encore aujourd'hui. L'éruption de mercredi a été particulièrement dévastatrice. Des milliers d'habitants de Sumatra ont été affectés par les rejets de cendres et de fumée. Il n'y a pas de blessés graves, mais des centaines d'agriculteurs ont vu leur culture détruite par les nuages de gaz chaud et les débris qui dévalent les montagnes. Le Sinabung, entré en éruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l'un des 129 volcans actifs en Indonésie. Le verre de demain, c'est peut-être ça, un matériau qui se répare tout seul. C'est le phénomène qu'a observé, un peu par hasard, Yu Yonagisawa. Dans son laboratoire, ce chercheur japonais a réussi à reconstituer deux morceaux de verre brisés en les serrant l'un contre l'autre pendant environ 30 secondes à température ambiante. Il s'agissait d'un type de verre de sa fabrication et ce n'est pas encore tout à fait au point car la résistance s'affaiblit quand la température dépasse les 40 degrés. Reste qu'une telle découverte permettrait de doubler, voire tripler la durée de vie de nombreux objets en verre comme les vitres de voitures ou les matériaux de construction. En tout cas, c'est un nouvel exemple de sérendipité, le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherchait, puisque ce chercheur expérimentait des formes d'adhésifs capables de fonctionner sur des surfaces mouillées. Et enfin, on vous parlait mercredi du premier satellite de l'Angola, Angosat 1, lancé mardi soir par la Russie. La Russie qui avait perdu son signal peu après sa mise sur orbite. Eh bien, le contact a été rétabli. Ouf ! C'est ce qu'a annoncé ce matin le géant spatial russe Engeria. Une bonne nouvelle pour l'Angola. Ce satellite de télécom est censé améliorer les communications radio et télé et l'accès à l'Internet à l'intérieur du pays, mais aussi chez certains voisins africains. Dans un instant, rétrospective scientifique de l'année, nous commencerons par un petit bilan des jolies surprises astronomiques que nous a réservé 2017.
Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu t'en sais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s. Où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparés, McCartney. George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan de 60s, où sont tes années folles? Sont devenues toutes tes idoles. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis.
Ex-fan des 60s, c'était Jane Birkin, vous l'aviez reconnu.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Quelles découvertes, quels événements scientifiques ont marqué l'année qui se termine? Pour en parler autour de la table, Philippe Pageot de La Recherche, Sophie Becherel de France Inter et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Et côté espace, on a eu une visite surprise, Philippe Hénarejos, celle d'un mystérieux astéroïde interstellaire qui n'est pas sans rappeler un récit de fiction d'Arthur C. Clarke.
Il venait de quelque part, nous ne savions pas d'où. La seule chose que nous savions est qu'il était énorme. Même sans système de propulsion, il avait clairement une vitesse, une direction, un but. Il venait vers la Terre.
Extrait de Rendez-vous avec Rama, un roman de science-fiction qui raconte l'histoire d'un vaisseau cylindrique qui arrive dans le système solaire. Alors là, Philippe Hénarejo, c'était pas un vaisseau, vous nous le confirmez cette fois-ci.
Ouais, je vous le confirme, mais on a été servi au début parce que effectivement, le roman d'Arthur C. Clarke sonnait comme une prophétie en fin de compte, puisque c'était exactement la même chose qui arrivait. Ouais. On avait un objet dont la vitesse et la trajectoire indiquaient qu'il venait d'ailleurs que dans le système solaire, donc de l'extérieur du système solaire. Évidemment, comme il s'agit d'un corps solide, c'était sans doute d'un autre système autour d'une autre étoile. Et en plus, on a regardé qu'en tournant sur lui-même toutes les 7h20, il avait une forme qu'on estime être de 400 mètres sur 40. Mmh. Et puis, ça ressemble à un cylindre. Alors, j'étais marqué parce que je suis allé voir Star Wars comme tout le monde, presque. sans spoiler quoi que ce soit, l'image d'ouverture, on a l'impression de voir les illustrations que l'Observatoire européen austral a sorti pour décrire cet objet. C'était un vaisseau spatial. En fait, voilà, ce qui est intéressant de ce truc-là, en dehors de la surprise interstellaire.
Alors, la surprise, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu venir, vraiment? On l'a découvert
même découvert au moment où il repartait. C'est-à-dire qu'on a des télescopes qui scannent le ciel. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que cet objet-là, il serait passé il y a 10 ans, on ne l'aurait pas vu, certainement. Ou alors, il aurait fallu avoir une énorme chance. Ouais. Donc, on a quand même des télescopes qui commencent à scanner le ciel toutes les semaines en entier. C'est comme ça qu'on a pu le repérer. Et sans doute, ça préfigure qu'on va en voir d'autres, parce que ça faisait longtemps que les astronomes se disaient on devrait voir ces objets qui viennent d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a des comètes qui sont éjectées du système solaire, donc l'inverse doit être vrai.
Donc là, astéroïde ou comète, on est sûr que c'était un astéroïde?
C'est ça qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'au début on s'est dit c'est un astéroïde parce qu'il est passé près du Soleil et il ne dégaze pas, en gros, il n'y a pas de chevelure comme les comètes, il n'est pas en train de fondre, il n'y a pas de glace d'eau qui se transforme en atmosphère, donc on s'est dit c'est un astéroïde, il est rocheux. Mmh. Bizarre quand même parce qu'il est allongé comme ça. Comment on crée un objet comme ça, on n'a pas de mécanisme. Et puis là, sur le départ, le VLET et deux autres télescopes l'ont observé, ont fait des spectres, ils ont aperçu qu'il était entouré d'une espèce de gang de matériaux organiques qui a sans doute été fabriqué par le rayonnement cosmique de toute la galaxie au cours de son voyage entre les étoiles, qui a quand même duré, il vient pas à la vitesse de lumière, il a duré des milliers et des milliers d'années, et donc cette gang a protégé, a priori, la glace qui doit le composer à l'intérieur, donc c'est finalement peut-être une comète, mais elle est bizarre quand même.
Mais c'est ultra frustrant, parce qu'il doit y avoir des renseignements d'une préciosité incroyable, et puis il est en train de nous passer sous le nez, il vient de nulle part, il ressort
il
déjà
reviendra,
du système solaire.
Il reviendra pas, mais il y en aura d'autres qui viendront. Là, c'est... On est frustré. On n'est pas comme dans le. C'est là où la similitude avec Rama s'arrête là, parce que dans le roman, on envoyait une équipe d'astronautes aller voir. Là, on peut pas. Il est déjà au-delà de l'orbite de Mars. Ouais. Alors, il mettra des centaines d'années à dépasser Uranus, Neptune et tout ça. Mais il est petit, il fait 400 mètres, on ne va pas pouvoir l'observer et surtout, on ne va pas pouvoir le rattraper. Alors, il y a bien des astronomes qui ont eu des idées.
On aurait pu, au dernier moment, envoyer une sonde pour aller
lui rendre visite. Toutes les questions de vitesse. Prenez une énorme fusée très puissante avec une petite sonde qui ne pèse pas beaucoup, vous mettez beaucoup de carburant et vous balancez ça à toute vitesse dans sa direction, vous pouvez le rattraper. Ça prendra des années parce que la sonde n'est pas construite, notamment.
Ouais. donc c'est raté, on a un métro de retard là.
C'est raté, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de télescopes, il y a des télescopes de 8 mètres qui vont scanner le ciel chaque semaine à partir de 2022. Et donc, s'il y en a d'autres, on les verra et on pourra sans doute les étudier et voir si cette forme bizarre, oblongue, est quelque chose de tout à fait extraordinaire, ou si c'est finalement assez commun. Pour le système solaire, c'est extraordinaire. On ne sait pas comment on fabrique ça. On a des idées.
Pourrait être quoi, alors?
Ça pourrait être que la planète qu'il a éjectée de son système, parce que pour qu'il voyage entre les étoiles, il faut qu'il ait été éjecté par un mécanisme gravitationnel, la planète qu'il a éjectée, donc, l'aurait déformée par ses forces de masse. Et comme il est fait de glace, peut-être de roche, tout ça c'est déformé, c'est étiré, et est resté plus ou moins collé pendant le voyage. C'est la seule explication qu'on a, on ne sait pas si c'est la vraie.
Ah, cet astéroïde interstellaire, c'est très intriguant, mais ça reste un peu anecdotique au regard de ce qui va suivre. Première historique, le 17 août dernier, les scientifiques ont observé la fusion de deux étoiles à neutrons. Alors là encore, c'est Philippe Hénarejos qui s'y colle, notre spécialiste de l'espace. Vous avez été bien servi en 2017. Déjà, c'est quoi deux étoiles à neutrons?
Alors les étoiles à neutrons, ce sont des résidus d'étoiles massives. C'est le cœur, ce qui reste du cœur d'une étoile massive qu'elle est arrivée au bout de sa vie et qu'elle a explosé en supernova, que toute la matière est partie autour et il ne reste plus que le cœur. C'est un objet très très dense. Ouais. Et là, il y en avait deux. qui se tournaient autour parce que il y a plein d'étoiles qui vivent en couple, sont des liées gravitationnellement, et donc elles sont rapprochées, c'est instable ces orbites-là, au point de fusionner. Et c'est la fusion, la collision donc de ces deux astres denses, une étoile à neutrons. Il faut savoir que ça peut être aussi massif que le Soleil, qui est énorme, et c'est pas plus grand que Paris. Hein, ouais. Donc c'est quand même tout petit, mais c'est extrêmement dense. Donc quand il y a une collision comme ça, ben ça secoue le tissu de l'espace-temps qui est autour, parce que l'espace, en gros, pour faire avec les mains et à moins de 30 secondes, ce n'est pas rien. Donc tout ça se met à vibrer, et comme quand vous jetez un caillou à la surface d'un lac qui serait parfaitement plat, il y a des ondes cette vibration se propage dans l'espace, et c'est ça que l'observatoire Virgo et LIGO a détecté sur Terre le 17 août.
Les voilà donc, nos ondes gravitationnelles dont nous parlions, Sophie Becherel, que vous souffliez à Alexis de Meyer.
Oui, c'est vrai que ce que dit Philippe, c'est surtout l'ouverture vers une nouvelle astronomie. C'est ça que disent les astronomes. Donc moi qui ne suis pas spécialiste, c'est ça que j'attends de comprendre, en quoi ces ondes gravitationnelles vont apporter de nouvelles connaissances sur le cosmos.
Et alors là, en plus, Philippe Hénarejos, ce qui est c'est plus que les ondes gravitationnelles, oui. C'est on regarde le même phénomène avec ce nouvel outil, oui, que sont la détection des ondes gravitationnelles, mais en même temps avec les ondes électromagnétiques, la lumière.
Absolument. Les ondes gravitationnelles, finalement, ça fait 2 ans à peu près, hein, c'est ça, 2 ans qu'on a découvert les premières, avec LIGO, qui est un ensemble de 2 détecteurs aux États-Unis. Là, il y a un 3e détecteur qui se trouve en Italie, qui s'appelle Virgo, qui est entré en service et qui observe en même temps. Grâce à lui, les astronomes ont pu cerner très exactement, enfin assez exactement, dans quelle région du ciel ça se passait, et immédiatement tourner d'autres télescopes dans la lumière visible, en infrarouge, en UV, en rayon X, en rayon gamma, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils ont vu quelque chose à l'endroit qui correspondait à un phénomène passager aussi, un flash, si vous voulez, un flash lumineux dans notre longueur d'onde. Et c'est ça la nouveauté par rapport à il y a 2 ans, c'est que maintenant on relie cette nouvelle astronomie gravitationnelle qui était finalement toute seule. Ouais. On avait une information sur 2 trous noirs qui fusionnaient, bon c'était très bien, on avait leur masse, tout ça. On savait vaguement à peu près où ils étaient, et c'est tout, on n'avait aucun espoir d'en savoir plus. Ouais. Là, avec cette observation, on a vu quelque chose, mais vu au sens où on voit, vraiment, c'est de la lumière qu'on a vu, qu'on a pu étudier, qu'on a pu suivre, et on s'est aperçu que, bien, tiens, ça pourrait être l'origine d'un autre mystère qui traîne depuis des décennies, l'origine des sursauts gamma, c'est-à-dire des flashs en rayon gamma qu'on détecte, qui sont très courts. Et en fait, en observant ce qui se passait après, puisqu'une fois que la fusion a eu lieu, il y a encore une petite brillance qui continue, on s'est aperçu que non, pas du tout, ça ne correspondait pas du tout sur ce gamma. Bref, c'est sans doute un autre phénomène. Donc, on n'a pas tout résolu, mais on a de nouvelles questions qui apparaissent. Et c'est ça qui est intéressant cette année, avec cette découverte des ondes gravitationnelles, c'est le fait de le relier au reste de l'astronomie.
Oui, c'est ça. Tout d'un coup, on a différents outils pour regarder les mêmes phénomènes. On appelle ça l'astronomie multimessager, et elle a de beaux jours devant elle, cette astronomie. L'espace n'a pas fini de nous fasciner, au point que certains aient envie d'aller y faire un tour. Dernier Français en date à l'avoir fait, c'est Thomas Pesquet, on en a beaucoup parlé, et le 2 juin dernier, sa capsule Soyouz atterrissait au Kazakhstan. 4 jours après, il redécouvrait les joies de la vie terrestre.
L'eau, ça manque, le contact de l'eau sur la peau. C'est vrai qu'on se lave avec des lingettes pendant 6 mois, donc on est très propre, mais c'est quand même pas le top du confort, c'est un peu camping. Moi, ce que j'ai fait assez rapidement, c'est prendre une douche, une bonne douche chaude. Alors, il a fallu que je la prenne assise sur un tabouret, parce qu'au début, l'équilibre marche pas très très bien, donc il faudrait pas s'écrouler dans la douche, se cogner la tête. Mais ça, c'était le premier jour en arrivant. Et voilà, et depuis, je me suis réhabitué. Donc ça, une promenade dehors, j'avais l'impression d'entendre les oiseaux, d'avoir le vent sur mon visage, de voir toutes les couleurs, comme si on avait mis le contraste au maximum. Donc, c'est des petits plaisirs de la vie dont les gens ne se rendent pas compte, mais que moi j'ai ressenti très très fortement en revenant sur Terre.
Sophie Becherel, ce que l'on retient en tout cas dans les médias, c'est avant tout une aventure humaine, hein, l'histoire de ce jeune homme qui un peu nous représente à bord de la station spatiale internationale.
La déferlante Pesquet, effectivement, ça a donné lieu à un engouement inattendu parce que le précédent astronaute Léopold Eyart avait volé en 2008 et que finalement il y a toute une génération qui ne se souvenait plus de comment c'était, quel récit il fournissait. Ouais. Parce que finalement Thomas Pesquet, c'est un communicant hors pair, mais il ne dit pas autre chose que les 9 qui l'ont précédé, mine de rien. Et moi qui suis un peu une dinosaure, j'ai souvenir des autres récits et je n'ai pas partagé cet engouement effectivement, d'autant qu'on nous avait promis une mission scientifique et qu'on a eu là un show visuel. C'est-à-dire que ce n'est pas de la responsabilité de Thomas Pesquet, c'est bien celle de la communication de l'Agence spatiale européenne qui a posté tous les jours plusieurs photographies de la Terre comme s'il n'était qu'un photographe depuis l'espace. Or, ça n'est pas ça, la mission de Thomas Pesquet, ça n'est pas ce qu'il a fait tous les jours. Il faisait les photos le week-end, mais effectivement, elles étaient divulguées en semaine. Ça nous a empêchés de nous poser collectivement les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi doit-on continuer à occuper la Station spatiale internationale ? Le faut-il d'ailleurs ? À quoi servent les astronautes ? Quelles expériences ils font ? Qu'est-ce que cette mission-là nous a appris de plus ? Et ce garçon, qui a pourtant été un expérimentateur exceptionnel, au dire de ceux qui avaient mis au point les manips, il a été particulièrement assidu à la tâche, etc. Et ben, il n'a pas parlé finalement de ce qu'il avait fait. Et c'est, à mon avis, très dommage parce que même aux questions essentielles comme quel défi faudra-t-il relever pour aller sur Mars si on y va matériellement, psychologiquement, tout ça, on n'est pas du tout allé au fond des réponses. On est resté sur je me lave avec des lingettes, la Terre est belle, et c'est extrêmement frustrant parce que si on doit dépenser, comme on le fait, 10 euros par Européen pour le vol habité, je trouve qu'il vaudrait mieux qu'on sache pourquoi précisément.
Philippe Hénarejos, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis entièrement d'accord. En plus, il y a eu un effet de loupe franco-français. C'est-à-dire que là, après Thomas Pesquet, il y a d'autres astronautes qui sont allés dans la station spatiale. Il y a un Italien, par exemple, Paolo Nespoli.
Qui vient de redescendre.
Qui vient de redescendre après 6 mois passés là-haut. Il a fait autant de photos que Thomas Pesquet. On n'en a pas entendu parler. Alors,
et
en Italie,
lui,
sans doute,
l'anglais Tim Peake. Voilà. Chacun est star dans son pays, mais ne fait pas avancer la cause commune.
Exactement. Et on parle d'exploration. Et malgré tout, on est dans la station spatiale internationale autour de la Terre. Pas plus haut que Gagarine à l'époque.
Allez, on va avoir l'occasion de revenir dans la suite de cette émission à ce qui vous a marqué, Sophie Becherel, sur le spatial. On quitte pour un temps l'espace pour un retour sur Terre avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Suite de la rétrospective du Club des Têtes au Carré dans un instant. Nakane qui chante Clairvoyant sur France Inter.
La tête au carré, le club.
C'est le plus grand iceberg jamais observé qui vient de se détacher de la côte orientale du pôle sud. Son nom, l'Arsène C. Ce monstre de glace flottante a une taille comparable à celle de la Corse. La fracture de la glace, bien visible en surface, était observée depuis 7 ans. Elle s'est accélérée ces derniers mois. Un phénomène naturel peut être favorisé par le réchauffement climatique.
Si les glaces continentales ne sont plus bloquées par ces plateformes marines, eh bien elles vont contribuer, l'écoulement va s'accélérer et elles risquent de contribuer plus qu'elles ne font actuellement à l'élévation du niveau de la mer. Donc à moyen et long terme, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'élévation du niveau de la mer.
Le climatologue Jean Jouzel sur France 3 le 13 juillet dernier. On poursuit notre rétrospective scientifique de l'année avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, Philippe Pajot de La Recherche et Sophie Bécherel de France Inter. Alors concernant le changement climatique, Sophie, on ne pourra pas dire que les sirènes d'alarme n'ont pas retenti et encore plus fort cette année.
Oui, même si les scientifiques hésitent quand même à affirmer de façon très péremptoire qu'il y a un lien de cause à effet entre ces événements auxquels on assiste et le réchauffement climatique. Néanmoins, comme ils le disent, ces événements qui se multiplient portent la marque d'eux, ce qui veut dire que malheureusement, les indices se multiplient. Il y a eu effectivement la plateforme Larsen C, il y a aussi la fonte du permafrost en Sibérie qui relargue énormément de méthane, puissant gaz à effet de serre. Et puis, il y a eu cette saison cyclonique exceptionnelle, l'année où les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. Ils ont subi un chapelet d'événements extrêmes, Katia, Irma, José, avec les dégâts que l'on sait. Tout à l'heure, Agnès parlait des incendies en Californie, tout à fait exceptionnels également. Ce qu'il faut noter, c'est que désormais, on paie la facture. C'est-à-dire que le coût financier pour la France, par exemple, l'île de Saint-Martin, sur laquelle est passée Irma, c'est 1,2 milliard d'euros que cela va coûter. Et Irma et Harvey aux États-Unis, 241 milliards d'euros. Ce qui veut dire 1,5 point de PIB en moins. Mmh. Et c'est tout à fait frappant de voir que ces chiffres-là, ces faits-là, qui sont indubitables, plus ce que l'on sait, c'est-à-dire que l'année 2017 aura été l'une des trois années les plus chaudes depuis l'ère pré-industrielle, qu'il n'y a jamais eu autant de CO2 émis dans l'atmosphère, encore plus qu'en 2016. Malgré tous ces indices-là, le président des États-Unis continue de dire que s'il fait très froid en ce moment, c'est pas du tout... c'est la contre-preuve du réchauffement climatique.
C'est ironique, il prend ça vraiment à la rigolade. En tout cas, il fait mine de le prendre à la rigolade.
En tout cas, ça a une conséquence, comme je le disais en introduction, sur les choix de société que l'on veut faire, au-delà de notre responsabilité individuelle, des politiques à prendre. En ce moment, on voit qu'on assiste à ce débat énergétique en France et on voit à quel point il est complexe. Éolienne, énergie solaire, nucléaire, quel choix faut-il faire? Ces questions complexes, on les voit à l'œuvre puisque les membres du même gouvernement n'arrivent pas finalement à fixer un cap très clair. Et nous-mêmes, citoyens, on est un peu assaillis de tas d'informations et on se demande qui faut-il croire. En tout cas, on doit s'informer sur ces sujets-là pour savoir comment voter et comment peser sur la décision publique, d'après moi.
Et comment on présente tout ça au grand public, Sophie Bécherel? Parce que vous nous dites, il y a eu des ouragans, une saison avec beaucoup de cyclones, mais quand on interroge un scientifique, il a toujours la prudence de dire, on ne peut pas vraiment affirmer de façon scientifique que tout ça est lié, fait partie du changement climatique.
Oui, mais comme je le disais, ces événements portent la marque d'eux. Et par rapport à ce que je constate depuis 20 ans, c'est tout de même que les scientifiques sont de plus en plus unanime à s'interroger quand même sur la responsabilité humaine dans le largage de gaz à effet de serre, mais quand même sur le lien de cause à effet. Et ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il faut s'adapter à ce changement. Quand bien même il ne serait pas 100% responsable, anthropique, il faut bien s'adapter parce que, comme je le disais, la facture est là. Et ça, on en est tous responsables parce que ce sont nos impôts qui vont devoir combler toutes les pertes.
Alors avec ce changement climatique, on ne sait pas trop où va l'humanité, on ne sait plus trop non plus d'où elle vient, le scénario des origines de l'homme remis en question par une nouvelle découverte faite par les équipes des paléo-anthropologues Abdelwed Benser et Jean-Jacques Hublin.
Cette découverte, elle concerne la période la plus ancienne de l'évolution de notre espèce, l'Homo sapiens, et elle consiste essentiellement en la datation d'un site archéologique qui était déjà connu depuis de nombreuses années, qui était mal compris. Il s'agit du site de Djebel Iroud au Maroc, et puis aussi de la découverte de restes humains assez nombreux qui datent de 300 000 ans. Ces découvertes, non seulement bouleversent un peu ce que l'on croyait sur le lieu d'origine de notre espèce, les formes les plus anciennes de notre espèce, elles ne sont pas en Afrique subsaharienne, elles sont au Maghreb. Et ensuite, que c'est sans doute toute l'Afrique, et depuis une période beaucoup plus ancienne que 200 000 ans, qui est impliquée dans cette émergence de l'Homo sapiens.
Jean-Jacques Hublin, donc l'un des paléo-anthropologues à l'origine de cette découverte. Philippe Pageot, une des découvertes qui fait partie pour le magazine La Recherche de janvier des 10 découvertes de l'année. Les paléo-anthropologues vont devoir revoir leur copie concernant le scénario de l'origine de l'homme.
Tout à fait. Alors ça, l'histoire commence à Djebel Irhoud, hein, comme l'a rappelé Jean-Jacques Hublin. Donc c'est une ancienne mine de baritine qui est située au Maroc, un peu entre Marrakech et Essaouira, pour donner une idée. Et en fait, des fossiles avaient été exhumés là depuis 1961, donc c'est vrai que c'est assez ancien. Et à l'époque, on les avait datés à 40 000 ans.
Ouais.
Et en fait, c'est ce qui faisait en fait douter les paléontologues parce que c'était une date assez récente. Et ce qui a permis cette avancée, c'est une nouvelle technique de datation assez moderne, qu'on appelle la thermoluminescence des silex et la résonance de spin électronique. Alors l'idée derrière la datation est assez facile à comprendre, hein, simplement que les fragments de silex qu'on retrouve là-bas dans ce site accumulent de l'énergie sous l'effet de la radioactivité ambiante. Ensuite, elles se libèrent sous forme de lumière lorsqu'ils sont chauffés dans un foyer qu'on pouvait trouver dans ces sites, et le compteur d'énergie est remis à zéro. Donc en quelque sorte, ensuite, il réaccumule de l'énergie et il suffit de chauffer ces silex en laboratoire et de mesurer l'énergie qu'ils ont accumulée depuis leur chauffe précédente et d'en déduire une date.
Autrement dit, ils disposent d'une nouvelle technologie, ils ont repris les mêmes fossiles qui avaient été découverts il y a plusieurs décennies, ils ont de nouveau daté ces fossiles avec cette nouvelle technologie, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Des nouveaux fossiles des anciens et des nouveaux fossiles également.
Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Ils ont retrouvé effectivement que la date était plus 40 000 ans, mais c'était 300 000 ans. C'est-à-dire que ça repoussait de 100 000 ans l'âge présumé d'Homo sapiens, hein, puisque c'est cette espèce que ces fossiles ont été attribués.
Et ça, ça change tout. Hein. Ça change tout. On croyait que le berceau de l'humanité, c'était l'Éthiopie. Là, on est au Maroc et on a des fossiles encore plus vieux.
Alors effectivement, ça augmente considérablement d'une part l'âge d'Homo sapiens, mais aussi ça agrandit l'aire géographique où s'est déroulée cette histoire, puisque les précédents fossiles étaient justement très, très concentrés plutôt en Éthiopie. Alors, la conséquence évidemment immédiate, c'est que le mythe que l'espèce humaine serait née dans un lieu très déterminé, une sorte de jardin d'Éden où elle aurait essaimé ailleurs en Afrique, elle s'écroule complètement. Il y a pas mal de discussions qui restent sur cette histoire de l'homme, qui devient à nouveau assez compliquée. Mais on peut aussi imaginer qu'Homo sapiens ait pu sortir d'Afrique très tôt, ce que disait Jean-Jacques Hublin, il y a 200 000 ans, et ensuite transmettre une partie de son capital génétique au néandertalien, notamment. Donc vraiment une histoire de l'espèce humaine à complètement réécrire au vu de cette nouvelle datation.
Et même dans votre article, dans la recherche, certains scientifiques s'interrogent et se demandent, est-ce qu'on arrivera finalement vraiment un jour à écrire l'histoire ? C'est vrai que cet arbre généalogique, il n'y a plus qu'un représentant de l'espèce humaine aujourd'hui sur Terre, mais nos ancêtres, l'arbre généalogique est tellement buissonnant qu'aller retrouver vraiment la différence entre un grand-parent, un grand-oncle, ils s'y perdent un peu, ces scientifiques.
Oui, et c'est d'autant plus difficile qu'on croit souvent que quand on trouve un fossile, le plus ancien fossile, c'est le plus ancien qui existait.
Oui.
C'est simplement le plus ancien qu'on a découvert. Et donc, rien n'empêche que demain, on retrouve encore un fossile encore plus ancien de Homo sapiens qui va encore réécrire ailleurs, qui va réécrire cette histoire. Donc, une histoire en perpétuelle évolution.
Oui, et difficile à retracer. Merci Philippe Pageot. Vous allez nous dévoiler dans un instant l'avancée scientifique placée en première position dans le magazine La Recherche de janvier. Vous écoutez France Inter, la tête au carré.
J'aime ta peau dorée, toi qui me donnais tout de ta main délivrée. J'aimais la peau dorée, mais maintenant je pleure ton nom. Oui, maintenant je pleure ton nom. Un oiseau chante je ne sais où, c'est, je crois, ton âme qui veille. Les mois sont passés, les saisons, mais moi je suis resté le même, qui aime, qui attend que revienne le printemps, qui aime, qui attend de reconnaître un jour le printemps. Laisse-moi le bruyère, un un souvenir pour être content. Tel est cet endroit où dans l'ombre confuse les démons et les anges se mélangent. Ah, je te rejoins dans cette brume épaisse que le tabac, le banjoin obscurcissent. Alors je pleure ton nom. Oui, je pleure. Un oiseau chante, je ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille. Et moi, comme toujours, ont passé les saisons. Mais moi, je suis resté le même qui attend que revienne le printemps. Qui aime, qui espère connaître la fin de l'hiver. Le passe finit plus vite qu'on ne pense. La, 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 la. À genoux, j'implore au ciel et mer. Et ce brin de bruyère, seul souvenir pour récompense. Pas comme Apollinaire, un souvenir pour récompense.
C'était Souvenir de Feu Chatterton et la programmation musicale de La Tête au Carré, signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Suite de notre rétrospective scientifique de l'année en compagnie de Sophie Bécherel de France Inter, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et Philippe Pajot du magazine La Recherche. En 15 ans, la Chine est devenue le leader des technologies quantiques de l'information. Cela pourrait déboucher sur l'Internet quantique. C'est l'événement scientifique que vous avez placé en première position dans le magazine La Recherche de janvier, consacré aux 10 découvertes de l'année, Philippe Pajot. Parmi les scientifiques qui comptent dans ce domaine de l'Internet quantique, il y a le chinois Jianwei Pan.
Different from in the classic communication network.
Dans les réseaux de communication classiques, les porteurs de l'information sont des photons. On en utilise un grand nombre, jusqu'à plusieurs millions, pour transporter une seule information. Mais dans les réseaux quantiques, en revanche, on n'utilise qu'un seul photon pour transporter l'information clé.
C'était donc Jianwei Pan, interviewé par le Télégraphe, et La Recherche l'a également interviewé pour cette première place dans votre classement. Il faut que vous nous expliquiez, mais alors on a tout de suite un peu peur avec la physique quantique. Quelle propriété de la physique quantique on va utiliser pour cet Internet quantique, Philippe Pajot?
Alors effectivement, la physique quantique, c'est quelque chose d'assez déroutant et, oui, étrange, qui a des propriétés tout à fait bizarres. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle l'intrication, qui est un phénomène de base de la physique quantique, qui fait que deux objets quantiques de même nature, par exemple deux photons, deux particules de lumière, peuvent être mis dans un état tel que, quelle que soit la distance qui sépare ces deux photons, une mesure sur l'un d'eux affecte la mesure sur l'autre. Ils sont dits intriqués. Donc c'est comme si un peu ils ne formaient qu'une seule entité. Et c'est ça. En gros, vous pouvez mettre un photon sur la Terre et un autre sur la Lune, et s'ils sont intriqués,
si on touche à l'un, l'autre réagit de la même façon.
De la même façon, aura la même propriété.
C'est donc déjà déroutant en soi. Il hein. Faut l'admettre. Hein. Faut l'admettre.
Il y a plein de choses en physique quantique qui sont déroutantes. C'est tout à fait contraire à l'intuition, de toute façon, classique qu'on peut avoir. Donc, le principe fondamental de la cryptographie quantique, c'est de construire justement des états intriqués tellement corrélés qu'on peut les considérer comme une entité unique. Et une fois qu'on a fabriqué ces photons, les deux photons intriqués sont séparés spatialement. Ils sont envoyés, par exemple, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, sur la Terre, sur la Lune ou à deux endroits du globe. Ce qui permet, en principe, de distribuer des ressources quantiques par fibre optique, par exemple, ou de satellite, afin d'échanger des clés secrètes entre partenaires éloignés. Parce que c'est le but de cette technique, c'est de faire ce qu'on appelle de la cryptographie quantique.
C'est ça. En fait, quand on parle de l'Internet quantique, le but, c'est pas d'aller plus vite, c'est pas d'améliorer le réseau, c'est d'améliorer la sécurité du réseau.
Alors pourquoi c'est important d'améliorer la sécurité? Donc, l'idée de base de la cryptographie, c'est d'échanger un message secret. Enfin, par exemple, je prends un message clair, La Tête au Carré est une super émission.
Oui, c'est clair.
Voilà. Je transforme avec ma clé, ça donne quelque chose d'incompréhensible en apparence, et je vous envoie ce message chiffré. Et vous, si vous avez la clé, vous pouvez le déchiffrer et relire le message initial. Donc, c'est vraiment tout le point. Il faut que vous et moi, on partage la même clé, une sorte de clé secrète. Et donc, c'est bien la difficulté de notre système. Il faut une manière de s'échanger des clés de manière sécurisée, une clé secrète commune à nous deux. Et c'est très difficile, en fait, en pratique, parce que si vous utilisez plusieurs fois la même clé secrète, eh bien, au bout d'un certain temps, quelqu'un va pouvoir lire vos messages. C'est par exemple ainsi que Alan Turing était parvenu à casser Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il faut pouvoir distribuer des clés secrètes de manière efficace.
Et c'est là où intervient la propriété d'intrication dont vous parliez, ces clés secrètes. On peut imaginer d'avoir une clé secrète distribuée de cette façon-là.
Exactement. Alors, c'était déjà fait sur les fibres optiques par le passé, mais sur des distances relativement faibles. Ce qu'a fait Jiang Wenpeng et son équipe en Chine, c'est de l'installer sur des satellites et de pouvoir faire de la distribution de clés à grande distance.
Autrement dit, ils ont mis en orbite un satellite qui envoie deux photons intriqués à 1000 km de distance. On se retrouve avec distribuer ces fameuses clés grâce à ces photons intriqués à 1000 km de distance.
Ils ont même envoyé deux satellites. Ils ont envoyé un premier satellite en 2016 de 600 kg. Ils ont réussi à réduire la taille. On a envoyé un deuxième satellite de 58 kg seulement, installé sur la station spatiale chinoise Tiangong. Donc c'est à des altitudes entre 400 et 500 km. Et effectivement, avec le premier, ils ont fait plusieurs expériences de mécanique quantique, dont ces distributions de clés quantiques.
Un mot, Philippe, pour conclure sur cette question. Pourquoi ce sont les Chinois qui sont en avance là-dessus? Et est-ce que nous, on est à la traîne? Est-ce que l'Europe y croit aussi? Ou est-ce qu'on est en train de se faire complètement doubler là-dessus?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jiang Wenpeng a fait sa thèse en Europe. Il était en thèse avec Zellinger en Autriche. Et ils ont eu à peu près la même idée ensemble. Ils se sont dit tous les deux, le premier qui réussit à faire financer son satellite, eh bien, il pourra, l'autre l'aidera, en quelque sorte. Et malheureusement, Zellinger n'a pas réussi à convaincre l'Agence spatiale européenne de l'intérêt de la chose. En tout cas, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens. Et effectivement, les Chinois l'ont fait et ont réussi à le faire. Ils développent en parallèle de ce réseau de satellites quantiques un réseau au sol de fibres optiques. Et donc, les deux ensemble, c'est vraiment l'acte de naissance de l'Internet quantique qu'on est en train de voir.
L'Internet quantique chinois, c'est à découvrir dans le magazine La Recherche de janvier. Sophie Becherel, des avancées aussi du côté de l'intelligence artificielle en 2017.
Oui, avec AlphaGo, vous savez, qui a encore fait des progrès. La machine de l'entreprise DeepMind a cette fois-ci été capable, en ayant uniquement les règles du jeu, effectivement de battre les meilleurs programmes sur le jeu de Go et également sur le jeu d'échecs. Elle n'a eu besoin finalement que de jouer contre elle-même pour apprendre et pour progresser. Au bout de 21 millions de parties et 8 heures d'entraînement, AlphaGo a gagné donc au jeu de Go. Pour les échecs, encore plus rapide, 4 heures d'apprentissage pour dominer le meilleur programme du marché et 2 heures seulement pour le shogi, une variante des échecs. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que cette fois-ci, donc on a utilisé des réseaux neuronaux profonds, non plus deux mais un seul. Auparavant, il y avait un réseau de décision qui décidait du prochain coup des pièces, du prochain mouvement, quand un réseau de valeurs prédisait le gagnant à partir de la configuration des pièces sur le jeu. Et là, un seul réseau neuronal, ça fait dire aux spécialistes que l'intelligence artificielle est en train de devenir généraliste. Autre application qui a émergé ou du moins encore augmenté cette année, c'est pour le commerce. Ça devient extrêmement performant sur les moteurs de recherche. Vous savez que maintenant, si vous habitez Hawaï et que vous êtes sportif, ça, la machine l'aura repéré parce que vous aurez été navigué sur le réseau internet ou rempli quelques petites informations. Eh bien, si dans un moteur de recherche, vous tapez M, avant même de taper la deuxième lettre, vous verrez s'afficher maillot. Mais si vous habitez à Londres, vous aurez manteau. Donc, vous voyez que ça va très très vite. Et évidemment, le chiffre d'affaires des sociétés commence déjà à monter. Et puis la toute dernière nouveauté, c'est la reconnaissance faciale par Facebook, utilisée, dit l'entreprise, à des fins de non-usurpation d'identité. Alors ce que promet l'entreprise, c'est de vous avertir quand une photo de vous est publiée par un tiers sur le réseau Facebook, une photo qui n'a pas été taguée, c'est-à-dire où on n'a pas mis la légende « c'est Daniel Fievé ». Alors pourquoi Facebook dit que ça va éviter l'usurpation d'identité? Eh bien c'est parce que Philippe Hénarejos ne peut pas utiliser votre photo et prétendre qu'il est Daniel Fievé. Sauf que ça, si c'est effectivement plus efficace que ce que fait un État, n'oublions pas que l'identité, c'est une fonction régalienne, ça pose la question de qui va donc surveiller nos identités et les garantir. La CNIL nous dit que cette fonctionnalité de Facebook ne sera pas acceptée en France parce que nous, on est sévère.
À surveiller donc. Allez, un dernier tour de table rapide. Vous avez 20 secondes chacun pour nous dire ce que vous, vous attendez en 2018 et ce que vous allez suivre avec attention. Philippe Pageot.
Alors, le satellite Microscope, vous avez peut-être entendu parler, qui récemment a donné des résultats intermédiaires, qui essaie de tester si deux masses tombent de la même manière dans le vide, eh bien, il devrait donner des résultats finaux à la fin de l'année, donc à suivre, pour savoir si la relativité générale est valide ou non.
Sophie Becherel.
Informez-vous sur la blockchain. À mon avis, on va en entendre parler. Et puis, 2018, ce sera la loi de révision des lois de bioéthique, important aussi parce qu'un domaine de société.
Et les blockchains, d'ailleurs, Mathieu Vidard consacre une émission dès mardi prochain.
Et ben voilà, commencez par là.
Donc, dès 2018, vous allez pouvoir commencer à vous informer sur la blockchain. Et Philippe Hénarejos, vous, qu'est-ce que vous... Sur deux infos,
deux choses.
On a le temps.
J'attends la photo du trou noir de la Voie lactée qui a été prise par des radiotélescopes, par des télescopes millimétriques au mois d'avril dernier. J'étais sur l'un d'eux pour la tête au carré d'ailleurs. On a fait un direct de là-bas au Mexique. Donc on attend ça. Ce serait la première fois qu'on voit l'absence de lumière due à un trou noir. Ce serait une photo d'un trou noir donc.
Une photo noire.
Mais non, je croyais que c'était pas possible de prendre un trou noir en photo.
Oui, mais oui, c'est l'absence de lumière, un trou noir. Donc on va voir l'absence de lumière sur un fond un peu plus clair de nébuleuse. Voilà.
Faudra donc, bien nous expliquer ça.
Je reviendrai, je vous promets.
Oh ben on compte sur vous en 2018.
C'est début 2018. Les scientifiques font leurs calculs. Et la deuxième chose, au mois d'août, il y a une sonde qui est partie il y a deux ans, qui s'appelle Osiris-Rex, et qui va approcher un astéroïde géocroiseur avec l'intention, d'ici 2020, d'aller prendre un petit morceau pour le ramener sur Terre en 2023. Mais là, en 2018, on aura les images rapprochées d'un nouveau corps du système solaire.
À la une de Ciel et Espace, ce mois-ci, vous l'avez en tête. De toute façon, Ciel et Espace, c'est toujours formidable.
Ce mois-ci, c'est toujours les aurores boréales. C'est la saison des aurores. Allez-y, allez en Norvège, allez en Islande. Il fait nuit tout le temps et le spectacle des aurores est magnifique.
Des fois même dans le Nord-Pas-de-Calais, on en voit.
Oui, absolument.
C'est plus rare, bien sûr, ça a eu lieu.
D'accord.
C'est plus rare.
Alors si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, n'hésitez pas. Peut-être que pour la Saint-Sylvestre, vous aurez une aurore boréale. Merci à tous les trois.
Merci.
Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard à 14h pour la première Tête au Carré de 2018. Et juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Fastnet 1979, La mer et les larmes. Merci à Léo Prangère qui était à la technique aujourd'hui avec Julien Chabassu. Vous écoutez France Inter et vous l'entendez, il est 15h.